Une de mes premières questions hier soir, quand je suis arrivé, a porté sur les textes bibliques qui avaient été lus samedi soir ou dimanche. Je craignais fort qu'on m'ait volé le premier que je voudrais vous lire ce matin. Le texte presque obligé lorsque l'on parle de confusion. Dans la Genèse, au chapitre 11, le récit de la tour de Babel. Genèse chapitre 11, versets 1 à 9. Je suis très heureux que mes prédécesseurs sur cette estrade me l'aient laissé. Donc après le récit du déluge et du peuplement de la terre, nous lisons au chapitre 11 et au verset 1er. Tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et l'Éternel dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début de leurs entreprises. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons, et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. L'Éternel les dispersa de là sur toute la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la face de la terre. Et puis je voudrais lire encore dans le Nouveau Testament, dans le livre symétrique en quelque sorte de celui de la Genèse, dans l'Apocalypse au chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Alors l'un des sept anges aux sept coupes s'en vint me dire, viens que je te montre le jugement de la prostituée fameuse assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Et il me transporta donc au désert en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de titres blasphématoires et portant sept têtes et 10 cornes. La femme, revêtue de pourpre et d'écarlate, étincelait d'or, de pierreries et de perles. Elle tenait à la main une coupe en or, remplie de répugnantes impuretés de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère, « Babylone la Grande, la mère des répugnantes prostituées de la terre ». Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait. Mais l'ange me dit, « Pourquoi t'étonner ? Je vais te dire, moi, le mystère de cette femme et de la bête qui la porte, la bête aux 7 têtes et aux 10 cornes. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus, elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête, de ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. C'est ici qu'il faut de l'intelligence, avoir de la finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé, l'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e, l'un des 7 cependant, il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royauté, mais ils recevront un pouvoir royal pour 1 heure seulement avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois avec le sien, les appelés, les choisis, les fidèles. Jusqu'ici notre lecture. Le Dieu de la Bible n'aime pas la confusion. Il s'oppose au chaos, au mélange indistinct, à l'entrelacs désordonné d'éléments hétérogènes. Nous en avons un premier témoignage dès le premier chapitre de la Genèse, que nous n'avons pas lu. L'œuvre de création divine se caractérise par la séparation de ce qui n'est au premier stade qu'un magma. Dieu dispose de manière systématique des parties distinctes. L'Éternel sépara, sépara, sépara. Nous en avons un témoignage ensuite dans ce chapitre 11 que nous avons lu ensemble. Il est bâti, pourrait-on dire, autour d'un jeu de mots ironique. Babylone, Babel, c'est le même mot dans la Bible. Babylone, c'était la plus prestigieuse des cités du paganisme. Et le texte sacré associe son nom à l'idée de confusion. Babel est interprété, ce n'est pas une étymologie scientifique, c'est un jeu de mots, ironique, cinglant, est interprété à l'aide du verbe balal, confondre, dans ce chapitre de la Genèse. Le verbe balal est en lui-même un peu une onomatopée, à peu près la même que celle que nous avons dans blablabla, par exemple. Babel, c'est-à-dire, d'après son étymologie véritable, la porte du ciel, Bab-Ili, n'est en fait que cité de confusion, blablabla. Et vous le savez, tout au long de la Bible, Babel apparaît comme la cité adverse, comme le résumé, le concentré de ce qui s'oppose au Dieu révélé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Nous retrouvons Babel sous le nom de Babylone dans le dernier livre de la Bible, comme je viens de le rappeler par la lecture. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui aime ce qui est net, ce qui est droitement dessiné, les traits fermes. Il y a un autre passage que j'aime beaucoup lire, je crois que j'ai eu l'occasion de le lire tout récemment à Dijon, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 45. Je lis les versets 18 et suivants, qui sont caractéristiques de tout le style de l'Éternel, le Dieu d'Israël et de Jésus-Christ. Ésaïe 45, 18. « Oui, ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, qui est Dieu, qui a façonné la terre et la fête, qui l'a fixée, et ne l'a pas créée chaotique, mais l'a rendue habitable. Je suis l'Éternel sans égal. Je n'ai pas parlé en secret, ni dans un endroit d'une région ténébreuse. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Moi, l'Éternel, je parle avec justesse et je m'exprime en parole droite. » Le Dieu de la Bible n'aime pas la confusion et il appelle ses fidèles au discernement. Le discernement, c'est la victoire sur la confusion. Les termes du Nouveau Testament que l'on peut traduire « discernement » évoquent soit la discrimination, soit l'épreuve, le test en quelque sorte, que l'on fait passer aux thèmes et aux thèses pour pouvoir se disposer de façon responsable à leur égard. Cette attitude de discernement est à l'opposé de l'abandon si séduisant auquel la confusion nous invite. Je dirais cet abandon, c'est déjà la saveur de la confusion. C'est la confusion s'annonçant dans le sentiment d'y glisser. Le Dieu de la Bible nous appelle à une attitude diamétralement opposée, et si je comprends bien, le sens de ce camp que nous avons ensemble, le sens du travail que nous devons faire, en tout cas dans les moments où je serai sur cette estrade, c'est le travail en vue du discernement. Nous voulons atteindre un discernement mûr et responsable, conforme à la pensée du Dieu de la Bible. J'avertirai seulement que ce discernement, pour être vraiment dans la pensée du Dieu de la Bible, doit être porté par la compassion. Je suis frappé par ce qui nous est dit de Jésus lorsqu'il a vu la foule de son temps égarée par tant de faux docteurs comme des brebis sans berger. C'est peut-être l'image typique de la confusion que celle d'un troupeau de moutons qui n'a plus personne pour le diriger et qui s'affole. Jésus a été ému de confusion, saisi aux entrailles, ému de compassion, saisi aux entrailles devant cette confusion, car il ne s'agit pas seulement de combattre des idées, mais de sauver des hommes que la confusion mène à leur perte. J'ai surtout à parler du discernement chrétien en face des confusions contemporaines dans trois directions. Il s'agit du chrétien face à la confusion théologique, à la confusion éthique et à la confusion politique aujourd'hui. Ces trois domaines sont étroitement liés en fait et en droit, car le domaine politique, c'est le prolongement du domaine éthique. Il s'agit des rapports des hommes entre eux, dans un système social, de conduite humaine donc, c'est finalement une province de l'éthique. Quant à l'éthique, elle dépend directement de la théologie, dans la mesure où on peut dire de tout homme que ce qui détermine sa conduite, c'est finalement là son Dieu. Ainsi, ces trois domaines sont étroitement liés, et quand nous les avons nommés, nous avons, me semble-t-il, désigné le gros morceau de la vie culturelle. Certes, il y a certains autres aspects, l'aspect esthétique par exemple, qui constitue aussi une part importante de la culture ou civilisation, mais il me semble indéniable que nous avons, dans les trois directions que je viens de mentionner, trois des directions fondamentales de la culture. Je vais vous donner une définition de la culture ou civilisation que j'ai trouvée dans un petit livre remarquable de Jacques Maritain. La culture ou la civilisation, dit-il, c'est l'épanouissement de la vie proprement humaine, comprenant non seulement le développement matériel nécessaire et suffisant pour nous permettre de mener une droite vie ici-bas, mais aussi et avant tout le développement moral, le développement des activités spéculatives et des activités pratiques. Avec une telle définition très acceptable, me semble-t-il, de la culture ou civilisation, il n'y a pas lieu de distinguer très fortement entre les termes. Je crois que vous serez d'accord avec moi, nous avons à toucher, au fond, presque le cœur de la vie culturelle. Et il m'a paru convenable, dans ces conditions, de consacrer le premier exposé à une sorte de vision panoramique de la confusion contemporaine. Il nous faudrait, me semble-t-il, aujourd'hui, essayer de débrouiller un peu l'imbroglio de notre temps, en marquant évidemment davantage ce qui concerne les trois directions théologiques, éthiques et politiques qui vont nous intéresser demain, après-demain et jeudi. Quel constat peut-on faire ? Bon, je vous donne tout de suite mes titres au fond, pour que vous sachiez où nous allons. Trois parties, le constat qu'on peut faire, les diagnostics qu'on nous propose et vers un discernement évangélique. Quel constat peut-on faire ? Il semble admis que notre culture est plongée aujourd'hui dans la confusion. Beaucoup reconnaissent que la crise dont on parle tant n'est pas une crise monétaire ou économique seulement, mais une crise de civilisation. La chose est tellement reçue qu'elle est passée même parmi les augustes banalités de nos présidents de la République successifs. Crise de civilisation. Et il ne s'agit pas seulement donc d'un courant politique, mais j'ai relevé dans les écrits du marxiste indépendant Henri Lefebvre une expression qui me semble résumer fort bien ce qui est confusion contemporaine. Il parle de la chute des référentiels dans son livre sur la vie quotidienne dans le monde moderne. Chute des référentiels, c'est-à-dire de tous les points fixes qui servaient de points de repère auxquels on pouvait faire référence. Ils s'écroulent, s'effondrent les uns après les autres. L'une des études les plus perspicaces à mes yeux de cette confusion contemporaine, que trop souvent on se contente de désigner sans la décrire, c'est un article du professeur de Harvard, Daniel Bell, qui a été assez récemment traduit en français. Il parle de ce qu'il appelle modernisme, tendance finalement confusionniste que l'on voit se développer depuis le milieu du 19e siècle, très nettement, surtout dans le monde avancé des créateurs culturels, et ensuite du postmodernisme, qui semble l'aboutissement logique de ce mouvement et qui marque l'ensemble de la vie sociale depuis les années 60. Je voudrais vous signaler quelques-unes de ses thèses dans cet article assez long où il les expose. Il caractérise le modernisme par l'éclipse de la distance. L'ordre institue toujours des distances. Le climat moderniste essaie de les effacer, toutes ces barrières, et de privilégier l'immédiateté. Il parle surtout des arts, de la littérature et des arts peut-être, mais ce qu'il dit me semble valoir au-delà de ce département particulier. Je lis par exemple une des descriptions tout à fait éloquentes qu'il nous fait. En rejetant toute continuité linéaire et en proclamant que le présent contient tout l'avenir, on perd la notion traditionnelle d'une œuvre pleinement achevée. Le fragment l'emporte sur le tout. On découvre au torse brisé, à la main séparée du corps, à la grimace du primitif, au visage coupé par le cadre, une valeur esthétique nouvelle. L'idée même qu'il existe des genres, avec des règles et des limites bien déterminées, tend à disparaître dans la confusion et le mélange des styles. On pourrait dire en fait que la déroute du beau devient en soi une esthétique. Vous voyez que nous sommes bien dans le sujet. Un peu plus loin, il souligne que la relation au monde tout entière est devenue tohu-bohu. C'est le terme qu'il emploie. Et dans le second verset de la Genèse, c'est précisément le terme que l'on traduit dans la version seconde, informe et vide, qu'on peut traduire le chaos. Tohu-bohu, c'est de l'hébreu. C'est un mot pour désigner cette espèce de magma où Dieu a introduit, c'est là son œuvre créatrice, décrite dans le premier chapitre de la Genèse, où Dieu a introduit l'ordre et la distinction. Même, dit-il, les réformes qui, dès le 19e siècle, ont été caractéristiques de l'esprit moderniste, sont mues par cette volonté d'effacer les limites, de transgresser tout ce qui paraissait ordre établi pour la vie humaine. La signification métaphysique de cette vaste entreprise spirituelle, dit-il, c'est celle d'une humanité à même de dépasser la nécessité, affranchie des contraintes naturelles. Ce qui entraîne, entre autres, un privilège de l'affectivité et de la volonté, un reniement de l'attachement au passé. Le modernisme, dit-il, valorise le présent ou le futur, mais se soucie peu du passé. avec alors des conséquences inéluctables. Toutefois, l'homme qui tranche ses attaches avec le passé ne saurait échapper à cette impression définitive de néant qui se dégage du futur. La foi a cessé d'être possible et l'art, la nature de l'élan vital, ne peuvent abolir le moi que l'espace d'un instant dans la fureur ou l'ivresse de l'acte dionysiaque. Mais l'ivresse se dissipe, suivie du froid réveil à l'impitoyable lumière du jour. Cette angoisse eschatologique obsédante amène chaque homme à ce qui est le soleil noir du modernisme, sentir que l'on vit la fin d'un monde, etc. Et ce qui était le privilège, si on veut, d'une minorité de quelques artistes maudits en marge de la vie sociale est devenu, explique-t-il, depuis les années 60, le style d'une fraction très importante des populations, de notre Occident en tout cas. C'est là ce qui marque plus spécialement le temps qu'il appelle postmoderniste, où les contraintes de l'esthétique, celles malgré tout d'un certain style encore, même dans la dénonciation de tous les styles, où ces contraintes même s'abolissent, et où l'immédiateté devient l'immédiateté de l'art et de la rue, de telle sorte que la confusion se généralise. Analyse qui me paraît intéressante, je l'ai citée assez longuement, au lieu de citer finalement des textes assez comparables dans la perspicacité de Schaeffer ou de Rockmacher, parce qu'il s'agit d'un observateur qui n'est pas chrétien lui-même, en tout cas il ne le semble pas. Des hommes avertis sont capables de discerner cette confusion contemporaine. Certes, il reste des rationalistes. Il reste des gens capables d'écrire des lettres aux gens heureux dont ils sont. Mais cela accroît encore la confusion, ça fait partie de la confusion. Car ce sont comme des lambeaux d'ordre qui surnagent dans cette espèce de grande soupe qu'est la confusion contemporaine. Dans le domaine théologique, alors, pour essayer de spécifier maintenant un peu, dans le domaine théologique, je crois qu'on peut dire qu'à des époques de relative simplicité a succédé, depuis le début des années 60, un temps de confusion sans précédent. Au début du siècle, disons, vous aviez deux interlocuteurs face à face, dont les positions étaient relativement homogènes. Vous aviez bien sûr la tradition évangélique, des hommes soumis à l'autorité de l'écriture tout entière, et puis vous aviez, je parle là du protestantisme, vous aviez le libéralisme en face, la théologie du libéralisme, avec ses deux caractéristiques principales d'optimisme, confiance dans l'évolution linéaire d'un progrès constant, et de moralisme. L'évangile se réduisait à certains principes d'éthique, mais au moins cela était admis, semble-t-il, par tous. Une époque a succédé à celle-ci après la Première Guerre mondiale, l'apothéose ayant été aux alentours des années 30 et 40, une époque où le vieux libéralisme a été remplacé par ce qu'on appelle de divers noms, soit la théologie de la crise, soit la théologie néo-orthodoxe. Karl Barth, le théologien Karl Barth, qui a enseigné la plus grande part de sa vie à Bâle, étant le champion de cette nouvelle façon antilibérale de concevoir la théologie. Karl Barth a exercé comme une sorte de magistère hégémonique sur tout le protestantisme, ou presque tout le protestantisme, pendant les années 30 et 40. La situation était encore relativement simple. Les choses ont commencé à changer dans les années 50, et je crois qu'on peut dire qu'aujourd'hui, et depuis à peu près les années 60, aucun courant ne réussit à s'imposer, comme le libéralisme l'avait fait autour de 1905, où le barthisme l'a fait autour de 1935. Les courants, en général néolibéraux, se déploient tous azimuts et nous sommes donc en présence d'une confusion sans précédent. Aucun théologien ne réussit à s'imposer comme le maître à penser de la génération présente. Du côté catholique, les choses se sont faites plus soudainement, se sont passées plus soudainement. La tradition catholique se caractérisait par l'ordre, chose bien connue. Mais depuis les années 50, les choses se sont préparées déjà dans les années 40, mais depuis les années 50, vous le savez, depuis que le pape Jean XXIII, surtout, a entrouvert la porte aux vagues néo-modernistes, c'est une confusion extrême qui tout à coup a submergé les positions antérieures, les positions anciennes, de telle sorte qu'on arrive maintenant à des choses qu'on n'aurait pas rêvé possible il y a même 10 ans. On me rapportait il y a 2 jours que dans la revue Itinéraire ou une revue qui lui est associée, une revue d'intégriste par exemple, on attaque violemment l'archevêque de Paris, Mgr Marty, en le traitant d'hérétique. Chez les intégristes, donc, vous avez attaque violente de la hiérarchie. D'autre part, je viens de lire un numéro spécial de la revue dominicaine Lumière et Vie, j'aurai l'occasion de vous en reparler, intitulé « Chrétien marxiste ». Et ce qui m'a particulièrement frappé, c'est que dans plusieurs des textes de ce numéro, écrit par des chrétiens qui s'affichent marxistes ou des marxistes qui se disent encore chrétiens, vous avez des attaques très violentes contre le modernisme, au sens théologique alors, le modernisme des marxisants dans l'Église catholique. Donc voyez, les intégristes attaquent l'archevêque et commencent à dire même que si le pape n'est pas assez ferme, eh bien il ne faut pas suivre le pape, qui n'est au fond infaillible que dans les déclarations ex cathedra concernant la foi et les mœurs. Vous avez des intégristes qui attaquent la hiérarchie, et vous avez alors des chrétiens qui se disent chrétiens d'extrême gauche qui attaquent les théologiens modernistes de compromis avec le monde en disant ils cherchent à nous récupérer et ils sont finalement encore plus dangereux que les intégristes. Ne sont-ce pas des exemples de confusion dans le temps présent, confusion théologique, confusion morale ou éthique? Je crois que c'est cette confusion-là qui frappe le plus les esprits autour de nous. C'est celle qui étonne et qui déboussole le plus, parce qu'il s'agit effectivement de la direction dont tout homme a besoin dans son comportement journalier. Les témoignages de cette confusion, ils abondent. Il me semble que nous en avons eu une pleine brassée, une moisson tout entière dans les débats récents sur la question de l'avortement. Je crois que vraiment, rarement, un débat a suscité plus de sophisme que celui-là. Et que nous avons atteint un record dans la densité de paralogisme au décimètre carré de pages imprimées à propos de cette question récemment. Il y a à coup sûr profond bouleversement. Même ceux qui sont très optimistes à l'égard de ce bouleversement parlent de temps de mutation, de génération mutante, etc. Et dans le domaine politique, on pourrait dire évidemment que la confusion, elle est de tout temps dans ce domaine. En tout cas, elle ne date pas de la dernière pluie. Cependant, il semble bien qu'on puisse dire d'aujourd'hui qu'il est caractérisé, c'est aujourd'hui, par une confusion encore plus grande que les décennies précédentes. D'une part, il y a certaines situations tout à fait aberrantes. Un article du spécialiste des questions soviétiques, professeur à l'université de Leyde, Karel van Hetreve, dit vraiment, c'est une chose extrêmement difficile à faire comprendre à un intellectuel soviétique, qu'on appelle en Occident gauchiste ceux qui brandissent le nom et le petit livre rouge de Mao. Car pour les soviétiques, Mao, c'est l'extrême droite. Voilà une situation frappante. Une autre de ces remarques me paraît aussi significative de ce temps de confusion. Il dit, il est à peine exagéré de dire qu'il y a plus de marxistes convaincus parmi les professeurs d'université à Paris et à Tokyo que dans toute la Russie. Et je crois qu'il a raison. Et si nous ne considérons pas ces phénomènes très particuliers, disons, signes de confusion, je crois que nous pouvons remarquer que jamais les modèles de société ont davantage manqué aux penseurs politiques. Même les enfants de ceux qui, dans les mêmes traditions, avaient des certitudes très, très affirmées dans les générations précédentes quant à la société à construire, me paraissent aujourd'hui marqués par beaucoup d'incertitudes et d'hésitations à cet égard. On dit il s'agit de bâtir une société nouvelle, mais à quel visage ? À visage humain, bien sûr, mais plus précisément, je crois que ni à gauche ni à droite, vous ne trouvez aujourd'hui de réponse assurée à ce propos. Avant, il y en avait, il y a des gens proposaient quelque chose. Mais maintenant, on insiste sur la voie spécifique à trouver vers ce qu'on n'a justement pas encore déterminé. Voilà, me semble-t-il, des signes qui nous permettent de parler de confusion dans ce domaine politique aussi. Quel diagnostic, alors, propose-t-on ? Le diagnostic le plus commun, me semble-t-il, rattache cette confusion au progrès technique et à ses conséquences sociologiques, en particulier l'urbanisation, comme aussi simplement démographique. Je me rappelle avoir lu, je crois que c'était dans son interview prolongée dans l'Express il y a quelques années, cette réflexion de Konrad Lorenz, vous savez, l'homme des oies sauvages, selon laquelle finalement tous les grands problèmes se rapportaient au problème de la démographie en notre temps. Cette interprétation qui rattache la confusion contemporaine au bouleversement introduit par les succès de l'ère scientifico-technique, elle est souvent le fait de penseurs de tendance romantique ou existentialiste. Il s'agit de dénoncer la robotisation d'un monde mécanique, la déshumanisation d'une société qui ressemble de plus en plus à un mécanisme d'horlogerie, et d'expliquer au fond la confusion que nous voyons dans les divers domaines évoqués tout à l'heure par la réaction d'un homme qui se sent étouffé par l'envahissement des robots et qui se sent en quelque sorte assimilé par eux et le refuse, sachant que tout ce qui a du prix finalement serait perdu si une telle évolution devait se poursuivre. La réaction romantique à l'égard de la technique explique et en général justifie la confusion contemporaine. Alors, vous en avez diverses versions, des versions très raffinées, très profondes, je ne prétends pas du tout les sonder, comme celle de Heidegger, avec son thème de l'oubli de l'être et de la nécessité de surmonter la scission du sujet et de l'objet, qui est typiquement la scission du monde scientifico-technique. Vous avez, à l'autre extrême, la réaction de ceux qui abandonnent la banlieue et qui vont se retirer dans les montagnes et se nourrir de lait de chèvre et se vêtir du poil des mêmes animaux. Et puis entre les deux, vous avez divers autres types de réactions à cet envahissement de la technique. Vous avez la forme prédicante ou prêcheuse dans la lignée de Bergson. Il nous faut un supplément d'âme pour correspondre à cet accroissement des pouvoirs de notre technique. Il y a aussi une version originale que l'on peut mentionner, celle de Marshall McLuhan, qui interprète cette mutation que nous appelons un glissement dans la confusion, comme la fin de la galaxie Gutenberg, la fin de l'hégémonie du mode de communication de l'imprimé, et le début de l'ère électronique, avec l'immédiateté de l'information et les nouvelles attitudes que le massage des médias nouveaux produit en nous. Beaucoup de lecteurs ont interprété les écrits de McLuhan comme optimistes à cet égard, comme une sorte de célébration de cette ère nouvelle. Il ne semble pas, je crois avoir lu ça quelque part, il ne semble pas que McLuhan soit finalement si heureux du changement. Enfin, il s'en fait le prophète. Plus résolument optimiste, mais toujours un peu dans la même ligne, serait Teilhard de Chardin, pour qui aussi le progrès technique est le fait dominant, le fait principal, et qui croit, quant à lui, que la machine produira d'elle-même le supplément d'âme nécessaire. C'est au fond comme cela qu'on pourrait caractériser sa confiance dans le monde moderne. Alors, il ne nie pas, il a reconnu, que pour l'instant, la machine paraît travailler à rebours. Il l'a dit. Alors, il essaie d'expliquer en disant que nous avons une sorte de passage critique à l'équateur. C'est comme si une onde se répandait du pôle nord au pôle sud à l'intérieur d'une sphère qui représente notre Terre au bout du compte. Il y a eu la phase d'expansion, qui est celle des derniers siècles, et maintenant le monde est rempli en quelque sorte, et l'onde doit se reployer sur elle-même. C'est un temps de compression. Cette compression, selon lui, doit en elle-même produire plus de conscience, plus de spiritualité, contribuer à l'amorisation des hommes. Cependant, il pense qu'au moment où ça passe à l'équateur et où les attitudes doivent en quelque sorte se modifier, alors il peut y avoir des petits problèmes, ce que nous vivrions en ce moment. Donc, résolument optimiste, avec reconnaissance de difficultés pour un moment de passage. Les marxistes font un diagnostic, eux, assez différent. Oh, ils se rattachent aussi, pourrait-on dire, au progrès technologique. Les moyens de production, au fond, Marx lui-même, dans le fameux passage sur le moulin à bras qui a produit la société féodale, le moulin à vapeur qui produit la société capitaliste, Marx aussi finalement renvoie à la technologie, car moulin à bras et moulin à vapeur, c'est de l'ordre du technologique. Cependant, vous le savez, l'interprétation n'est pas la même que celle des penseurs que je viens d'évoquer. Pour les marxistes, c'est essentiellement de la décadence de la bourgeoisie qui se survit en quelque sorte à elle-même que naît la confusion que tous peuvent observer. Cette confusion marque la déliquescence d'un système qui a fait son temps, dont les autocontradictions amènent inéluctablement la destruction. Je me rappelle avoir lu cette petite description schématique. Le rationalisme, c'est la philosophie de la bourgeoisie ascendante. Le positivisme, c'est la philosophie de la bourgeoisie au pouvoir. Et l'existentialisme, avec son irrationalisme et cette espèce d'explosion qui engendre la confusion, c'est la philosophie de la bourgeoisie décadente, proche de sa fin. Donc nous avons un autre diagnostic du côté de l'interprétation marxiste de l'histoire. Daniel Bell, ce professeur de Harvard dont j'ai cité tout à l'heure des passages éloquents, interprète aussi le modernisme et le postmodernisme comme la conséquence de l'évolution du capitalisme. Le titre de l'article que je vous ai cité, c'est « Les contradictions culturelles du capitalisme ». Il n'est pas marxiste, cependant. Pour lui, le fait marquant, c'est que le succès même du type de régime économique que la bourgeoisie a institué détruit les valeurs morales sur lesquelles ce système est fondé. Ce système est fondé sur l'éthique du travail, de la discipline, de la responsabilité individuelle. Il dit que son principe fondamental, c'est remettre à plus tard le plaisir, se discipliner pour investir et toujours remettre à plus tard, toujours en tout cas longtemps, la jouissance de ce que l'on a réussi à retirer comme profit d'un travail donné. Le succès même de ce système engendre la société de consommation avec l'impératif très opposé à la morale fondamentale du régime en cause, de telle sorte que les petits-enfants ou arrière-petits-enfants des bourgeois qui ont tout sacrifié de leur énergie à la construction du système ne voient plus aucune raison, eux, de ne pas jouir tout de suite des fruits du travail accumulé. Et ainsi, le système se désagrège de cette façon. C'est une interprétation intéressante. Je me demande cependant si Daniel Bell trouve dans cette espèce d'autocontradiction différente de celle des marxistes la véritable clé de tout le développement, parce qu'à la fin de son article, il semble dire que les facteurs religieux sont premiers. Tout à la fin, il a une remarque intéressante. La crise la plus profonde et la plus durable, dit-il, est de nature culturelle. Et les changements des valeurs et des traditions morales, dit-il, procèdent en fin de compte des conceptions religieuses qui sous-tendent une société par l'intermédiaire des systèmes d'incitation et des motivations et de ce qu'il est légitime lié à la sphère du travail. C'est dans cette direction, celle des facteurs religieux, que me semble se situer alors encore une autre tentative de diagnostic. Un certain nombre d'auteurs parlent plus directement de causalité de type religieux pour expliquer l'évolution vers la confusion que nous avons décrite. C'est, me semble-t-il, la ligne de Nietzsche. Pour qui le fait décisif, c'est la proclamation de la mort de Dieu. C'est la mort de Dieu qui est le phénomène culturel d'importance capitale, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Dans la même ligne, malgré ses affinités avec le matérialisme, pourrait se situer aujourd'hui Michel Foucault, dont plusieurs ont relevé les affinités avec la pensée nietzschéenne. Et il tire la conséquence avec beaucoup d'honnêteté, la mort de Dieu entraîne la mort de l'homme. La mort de l'homme telle qu'on l'a conçue, bien sûr, dans toute la période de l'histoire qui commence à la Renaissance. Ce n'est qu'un visage de sable qui s'efface. Aujourd'hui, voilà sa description de la confusion contemporaine. Il me semble que là, c'est plutôt un aspect fondamental d'appréhension du monde, de l'expérience, à partir de la racine de l'existence humaine, que des facteurs externes qui sont évoqués. Un autre auteur contemporain, dont j'ai vu des citations, je n'ai pas lu le livre malheureusement, mais des citations très éloquentes, René Girard, me paraît se rattacher aussi à ce type d'interprétation, l'interprétation plutôt religieuse de l'évolution que nous avons décrite. Je vous lis quelques-unes des choses qui sont citées devant mes yeux. Derrière toutes les doctrines occidentales qui se succèdent depuis 2 ou 3 siècles, il y a toujours le même principe. Dieu est mort, c'est à l'homme de prendre sa place. La tentation de l'orgueil est éternelle, mais elle devient irrésistible à l'époque moderne, car elle est orchestrée et amplifiée de façon inouïe. La bonne nouvelle moderne est entendue par tous. Plus elle se grave profondément dans notre cœur, plus le contraste est violent entre cette promesse merveilleuse et le démenti brutal que lui inflige l'expérience. Seul l'être fort peut vivre sans vanité. Chrétien fort dans un monde de confusion. Seul l'être fort peut vivre sans vanité. Dans un univers d'ego, les faibles sont la proie du désir métaphysique et l'on voit triompher les sentiments modernes, l'envie, la jalousie, la haine impuissante. Les hommes qui ne peuvent regarder la liberté en face sont exposés à l'angoisse. Ils cherchent un point d'appui où fixer leur regard. Il n'y a plus ni Dieu, ni roi, ni seigneur pour les relier à l'universel. C'est pour échapper au sentiment du particulier que les hommes désirent l'autre. Ils choisissent des dieux de rechange, car ils ne peuvent pas renoncer à l'infini. Et encore, la négation de Dieu ne supprime pas la transcendance, mais elle la fait dévier de l'au-delà vers l'en-deçà. L'imitation de Jésus-Christ devient l'imitation du prochain. L'élan de l'orgueilleux se brise sur l'humanité du médiateur. La haine est le résultat de ce conflit. La surface de la terre où habitent les autres devient un inaccessible paradis. Chacun se croit en enfer et c'est cela l'enfer. Voilà quelques réflexions d'un homme qu'on ne peut pas non plus désigner comme un chrétien évangélique. Un autre diagnostic qui fait du facteur religieux finalement, le facteur fondamental. Quel sera alors notre discernement à nous, chrétiens évangéliques ? C'est bien sûr le dernier diagnostic qui attire notre attention et notre sympathie. Et je crois que nous n'avons pas à résister à ce premier mouvement, qu'en effet, nous avons le droit d'affirmer que dans une évolution historique comme celle que nous évoquons, c'est bien de ce qui procède du cœur de l'homme que partent les mouvements décisifs du cheminement historique. Je crois que nous pouvons l'affirmer sur deux bases bibliques. D'une part, sur la vision biblique de l'histoire, sur la base de la vision biblique de l'histoire, qui nous dit clairement, vous n'avez qu'à lire l'Ancien Testament, tout ce qui concerne l'histoire d'Israël en particulier, mais aussi des autres nations, que c'est sur la base du rapport à Dieu que les grands événements historiques finalement prennent leur sens. C'est à partir du rapport à Dieu que les hommes vivent leur histoire. C'est là que son sens peut se dévoiler. Vision biblique de l'histoire privilégie cela comme l'élément clé. Et ensuite, vision biblique de l'homme. Vision biblique de l'homme pour laquelle le cœur est source fondamentale de tous les comportements. C'est ce qu'affirme le livre des Proverbes, entre autres, au chapitre 4. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. C'est le cœur de l'homme, c'est-à-dire le centre de sa personne se rapportant à Dieu, se disposant à l'égard de Dieu, c'est du cœur que tout part dans la vision biblique des choses. Alors, il me semble que sur cette double base, nous pouvons affirmer en effet que ce qui est fondamental, c'est le rapport de l'homme à Dieu et que les autres facteurs envisagés ont un caractère second. Ce qui nous est décrit de l'effet du progrès technique n'est pas sans intérêt. Peut nous amener, je crois, à mieux comprendre le comment du glissement progressif à la confusion, mais laisse subsister toujours la question du pourquoi. Pourquoi ? Pourquoi les techniques sont-elles asservissantes ? Pourquoi cet homme qui bâtit un monde selon les schèmes de sa raison trouve-t-il que son projet se retourne contre lui et se sent-il déshumanisé par cette évolution même ? Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi, devant une telle évolution, ne réagit-il pas de façon efficace ? Ne maîtrise-t-il pas le progrès de sa science et des applications de sa science sur le monde ? Il me semble que la première interprétation ne donne aucune réponse à cette question. Je passe rapidement sur les interprétations de McLuhan, qui sont originales, mais quand même, semble-t-il, un peu trop courtes, ou sur celle de Teilhard de Chardin, dont la foi au monde est une foi en dépit de toute apparence présente. Il est très joli d'affirmer que la machine va produire son supplément d'âme, que l'évolution de notre société produit la morisation, mais faute de toute preuve dans ce sens, pouvons, je crois, mettre quelques points d'interrogation et d'exclamation en marche. L'interprétation marxiste de l'affaire, bien sûr, c'est le marxisme tout entier. Alors, il ne s'agit pas, en tout cas aujourd'hui, d'en parler longuement. Ce que je signalerai simplement, c'est que si le marxisme a bien prédit une crise, si le marxisme a bien prédit une désagrégation de notre société, les prédictions ont été faites de telle manière qu'on ne peut pas dire qu'elles se soient accomplies. Bien sûr, en gros, on nous a prédit une crise et nous avons une crise. Mais quelle crise nous a-t-on prédite ? Dans les écrits des marxistes de Marx lui-même et des marxistes du XIXe siècle en particulier, des crises tout à fait différentes de celles que nous avons en réalité. Et rarement théorie proposée, disons comme prospective, le mot n'était pas encore en usage, mais on peut dire que c'était déjà cela. Rarement théorie de type prospectif a été davantage démentie par les faits, dès qu'on considère un petit peu ce qui était précisément prédit, que la théorie marxiste de l'évolution du monde occidental. Les succès même du marxisme sont un démenti à l'égard des prédictions particulières du système. Alors il me semble que dans ces conditions, nous n'avons pas besoin de nous laisser trop impressionner par l'interprétation marxiste, en attendant peut-être d'y revenir jeudi matin. Les prédictions bibliques, elles, s'accomplissent d'une manière beaucoup plus fidèle et exacte. Retour à Babel, retour à la confusion, mais nous l'avons lu ensemble. C'est précisément ce que l'Apocalypse nous laisse attendre avec son thème de la Babylone finale, cette prodigieuse floraison de toute la civilisation humaine concentrée dans la grande cité. Oui, c'est Babel toujours, c'est Babel, la cité de la confusion. La Bible me semble nous avoir parlé de cette confusion bien avant tous les prophètes sociologiques que nous avons parlé, et ce que nous voyons correspond, nous aurons encore l'occasion de lire d'ailleurs d'autres textes ces prochains matins, correspond de manière extraordinairement fidèle à ce que nous voyons se passer sous nos yeux. Avec, c'est le lien avec l'interprétation d'un Girard par exemple, avec exactement la loi de Babel s'appliquant. L'orgueil va au-devant de l'écrasement et de l'écrasement dans la confusion. Affirmation de l'homme, faisons-nous un nom, élevons-nous jusqu'au ciel. Confusion, balala, confusion comme sanction de cette prétention infinie de l'homme à supplanter Dieu, à monter jusqu'à son trône. C'est vraiment là la thèse fondamentale que la citation de Girard évoquait tout à l'heure, plus ou moins par la bande. C'est l'orgueil de l'homme, s'affirmant lui-même et proclamant la mort de Dieu qui engendre la confusion où nous sommes. Mais on peut sans doute préciser encore un peu davantage. Et je voudrais là indiquer simplement quelques avenues de réflexion, pas que je dépasse trop mon temps. On peut développer à l'aide des catégories que le philosophe évangélique néerlandais d'Hoyeveerde nous a données. J'ai eu l'occasion déjà de les présenter à quelques-uns d'entre vous en divers endroits. Il montre que la pensée humaniste, celle donc qui prend son essor à la Renaissance, se fonde sur le motif fondamental, antinomique de la nature et de la liberté. La vision du monde, ou du réel tout entier, qui est au cœur de la pensée humaniste, et c'est ce qui d'ailleurs lui vaut son nom, c'est la vision d'un monde régie par des lois rationnelles, que l'homme va pouvoir connaître et maîtriser à l'aide de sa raison, et d'un homme qui est avant tout liberté, en face du monde, qui est maître de lui-même comme de l'univers. C'est ce motif fondamental qui est le motif même de l'humanisme et qui a régné depuis le XVIe et le XVIIe siècle. Or, ce motif humaniste est une sécularisation du motif biblique. C'est le motif biblique qui a pénétré par osmose tout autant pendant l'éducation chrétienne de l'Occident au cours de 15 siècles. C'est le motif biblique de l'homme créé en image de Dieu pour régner sur la création visible. Laquelle création visible a été faite par la parole de Dieu, le logos de Dieu, et a ainsi un caractère intelligible. Le motif moderne, c'est la sécularisation du motif biblique. Sécularisation parce que le Dieu biblique fondateur en toute cette affaire est éliminé. D'abord, on rétrécit simplement sa part, et puis finalement, on l'élimine complètement. Ce motif sécularisé, coupé de ses racines, inéluctablement se dessèche, fane. C'est une vérité chrétienne devenue folle, selon l'expression du chrétien anglais Chesterton. Vérité chrétienne devenue folle, qui a perdu son fondement et qui ne peut pas se maintenir telle qu'elle. Au début, on croit que tout ira bien. Oui, on affirme à la fois le monde et la liberté de l'homme, pas de problème. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les penseurs sensibles s'aperçoivent que ça ne va pas tout seul, que le monde menace la liberté, que la liberté menace l'intelligibilité du monde, et des versions de plus en plus antithétiques, parfois jusqu'à la frénésie, du même motif se succèdent. La liberté prend le caractère de plus en plus d'une révolte contre l'ordre de la nature, le caractère d'une anti-nature. Très évident, le thème est dans toutes lettres, chez Sartre par exemple, mais ça a commencé bien avant lui. Le motif humaniste, du fait de la sécularisation qu'il a infligée au motif biblique, aboutit à sa propre dislocation, inéluctablement. Et c'est cela que nous verrions dans la confusion contemporaine. Je crois que cette interprétation est une interprétation pertinente, qui va vraiment au fond des choses, qui désigne le facteur décisif. Et je voudrais vous proposer l'intégration de cette pensée dans une vision encore plus vaste de l'histoire. Bien sûr, c'est à très large trait que je brosse là quelques schémas. Mais je pense que votre pensée, je pense que vous pourrez en retirer quelques profits en corrigeant ce qui est à corriger dans ce que je vais dire. Toute l'histoire de l'humanité a été décrite, par exemple, par Braunschweig, comme la montée de la conscience. L'homme, en quelque sorte, émerge du sein d'une confusion initiale. Au stade de la pensée mythique, si vous voulez, tout est confondu, l'homme et le monde, l'individu et la société. Le mythe se caractérise par une sorte de coalescence, de mélange de tout ce qu'ensuite l'homme a appris à discerner, à distinguer. Cette confusion initiale, dans une perspective biblique, nous devrons la dire consécutive à la chute. L'homme s'étant détourné de son Dieu, en quelque sorte, retombe dans la nature et comme plongé dans un chaos qu'il ne peut pas maîtriser. Il essaie, mais péniblement, de se construire un espèce de petit radeau sur ce chaos qui l'enserre. C'est ce que le mythe lui permet de faire. Un espèce de radeau de stabilité et d'intelligibilité minimale pour que quand même la vie soit vivable. Mais le chaos l'environne de toutes parts, le porte, ce chaos qui à la fois le terrorise et le fascine. De telle sorte que dans le mythe, il y a le thème de la replongée périodique dans le chaos, car le chaos est régénérateur. Tant de confusion duquel l'homme progressivement émerge en se constituant comme une instance distincte de cette nature qu'il comprend de plus en plus. L'histoire de la pensée humaine pourrait être décrite comme celle d'une immersion progressive de l'homme comme homme en face du monde. Cependant, cela ne s'est pas fait, c'est très intéressant à remarquer, sans l'impact du message biblique, avec son thème de l'homme créé en image de Dieu et interpellé par un Dieu radicalement distinct du monde. C'est avec l'impact de la vision biblique des choses que l'homme prend en un sens pleinement conscience de lui-même dans sa distinction avec la nature, le reste du monde. Vient un moment où, ayant pris conscience de lui-même, il croit qu'il pourra supprimer le Créateur, qu'il l'a en quelque sorte exaucé au-dessus de cette mer mouvante des phénomènes. C'est là le propre des temps modernes, que de donner à l'homme cette confiance. Conscient de lui-même, il s'affirme au-dessus du monde. Et il transforme le monde au point que ce monde recouvert d'une pellicule de fabrication humaine lui apparaîtra comme sa propre création. Dans cette immersion de la conscience, on pourrait dire que la conscience finit par se déraciner, tellement émergée qu'elle oublie de quel sein maternel elle est sortie. Et on aboutit au terme de l'évolution, c'est ce que je décrirai donc comme la situation contemporaine, à un stade où l'on revient à la confusion primitive, où il n'y a plus dualité entre l'homme et le monde, parce que le monde, en quelque sorte, n'apparaît plus comme un autre, n'apparaît plus comme la fabrication de l'homme, de telle sorte qu'il n'y a plus que l'homme avec lui-même. L'individu avec la société, ça c'est un des problèmes de tension non résolue du temps présent, mais malgré tout toujours l'homme avec lui-même, qui alors tourne en rond autour de lui-même. Effacement du Dieu chrétien qui maintenait la distance et la distinction, croissance de la technologie humaine, dont l'essor même a été possible grâce à l'impact du message chrétien, et finalement retour à une forme d'indistinction, de solitude, symétrique de la situation initiale, symétrique du temps mythique. Je crois que cette espèce de symétrie, plusieurs penseurs contemporains l'ont remarqué. Au fond, Heidegger réclame qu'on retourne au pré-socratique. McLuhan parle de retour à un village global dans son ère électronique. C'est une pensée que plusieurs ont découverte. Il y a au fond une sorte de correspondance entre le stade dans lequel nous entrons et le stade initial, avec la même fusion confusionniste. Mais une grande différence, bien sûr, c'est que dans le stade initial, c'était une confusion de sous-conscience, l'homme immergé dans des phénomènes qu'il ne maîtrisait pas, et en quelque sorte noyé dans la nature, alors que maintenant nous avons une sorte de solitude d'hyper-conscience, de surconscience, où l'homme n'est plus que seul avec lui-même. Et il s'imagine que tout est de sa création, qu'il est l'autocréateur de lui-même et de son monde. Je crois que c'est ainsi que nous pourrions comprendre l'évolution vers la confusion dont nous parlons. Alors, quelle perspective d'avenir ? Dans la révélation scripturaire, Babylone, c'est le dernier stade, ou disons l'avant-dernier, avant que l'agneau triomphe de Babylone. Il ne semble pas, bien sûr, il peut y avoir bien des méandres dans l'histoire, mais il ne semble pas que nous allions vers une autre grande ère historique que celle de la confusion, d'après les textes prophétiques. Seulement, ce qui me paraît ressortir des textes, de l'ensemble des textes, je n'ai pas eu le temps de les lire, c'est que nous allons peut-être vers une forme plus subtile et plus pernicieuse de la confusion, encore que celle que nous voyons. Une forme de confusion consolidée, où le principe de confusion, par une espèce de paradoxe presque insondable, devient principe d'organisation. La confusion va singer la communion et se faire prendre pour une espèce d'ordre. Il me semble que c'est ce vers quoi nous allons d'après les prophéties, où nous ne sommes pas encore tout à fait. Contradiction, certes, mais c'est au fond la contradiction même du culte de l'homme par l'homme. Qu'y a-t-il de contradictoire sinon le culte de l'homme par l'homme ? Contradiction de la confusion qui s'instaurera comme une espèce d'ordre. À titre précaire, bien sûr, parce que c'est contradictoire, ça ne peut pas ne pas éclater. C'est pourquoi ces jours sont abrégés. C'est pourquoi nous avons l'assurance que l'agneau vaincra. Il vaincra la Babylone de confusion. Voilà, me semble-t-il, la perspective que l'Écriture nous donne avec cet ordre, veillez et priez. Ne soyez pas surpris de toutes ces choses. Quand vous voyez toutes ces choses arriver, levez la tête, car votre délivrance est proche. Mais en attendant, veillez et priez. Nous allons avoir, d'après l'annonce tout à l'heure, un moment de prière assez bientôt. Je pense que nous pourrions tous demander que le Seigneur nous donne de veiller et prier à tous les échelons, à tous les niveaux de notre vie personnelle devant cette confusion de notre temps.